7h18, bonjour Pierre-Yves.
Bonjour Paul.
Ce matin, premier point, l'importance de bien diversifier son portefeuille de placement.
Oui, le S&P 500 est rendu un sommet. Et c'est très drôle parce que le plus gros indice américain, dans le fond, nous dit « Ben, ça va bien, il y a une croissance, mais pourtant, pendant des années, Paul, on a parlé de l'économie, on a parlé de la dette grecque, de la zone euro, de la Chine, de la fixation du change, du Brexit, du pétrole, des tensions commerciales que Trump invente à chaque tweet. Et on parle aussi du côté des Américains, des prêts étudiants et des prêts automobiles qui sont quand même à un niveau très élevé. Donc, il y a deux petites bulles potentielles dans l'économie. Et il y aura un jour une correction, on ne sait pas quand. Non, mais pendant ce temps-là, les gens qui ont investi aux États-Unis ont fait de l'argent. Donc, la diversification, c'est une des rares stratégies que tu peux dire, c'est toujours une bonne chose en général. La preuve, c'est que les gens qui se concentrent au Canada, tu sais, comme ce matin, il y a la banque royale qui sort encore 11 milliards de revenus, 3 milliards de profits pour un trimestre. Mais on se concentre dans des domaines plus financiers, des secteurs moins diversifiés. Et ça représente juste 3% de la capitalisation du monde. Donc, on perd des marchés potentiels en restant au Canada. Autre point intéressant, c'est de se dire, ben, si j'ai investi mon argent dans le S&P 500, par exemple, par rapport au TSX, depuis 5 ans, ben, j'ai fait 2,6 fois plus de rendement aux États-Unis qu'au Canada. Donc, c'est bon de mettre une portion de son portefeuille ailleurs qu'au Canada pour profiter, oui, peut-être qu'on a un risque de change, mais pour profiter des gains d'une autre économie, d'une autre valeur. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas juste se diversifier dans des placements, mais géographiquement, Paul. Donc, il faut mettre sa jambe aux États-Unis, son bras en Europe, puis son corps au Canada.
Peux-tu mettre un orteil en Inde aussi, peut-être?
Peut-être, mais comme tu dis, une orteil, plus tu es dans un marché émergent, plus il y a des risques. Comme les marchés qui sont très risqués au niveau politique, tu sais, tu fais un placement dans un pays, puis il y a un despote politique, les règles changent, puis ton placement vaut pas grand-chose. Donc, ça te prend une orteil partout, tu as tout à fait raison, Paul. Et ceux qui sont très riches, ben, peuvent investir dans des Netflix de ce monde et faire un coup d'argent il y a 6 ans. Bon, ben ça, c'était les gens qui avaient assez de portefeuille pour mettre un petit 15-10 000 là-dedans. Mais c'est assez intéressant de voir ça que le S&P 500, avec sa hausse des dernières années, montre l'importance de la diversification du portefeuille.
OK. Tu veux faire une correction d'une erreur de marketing?
Ouais. Là, depuis que je suis petit, il y avait Jean Lapointe à l'époque qui faisait des pubs de Banque Royale avec le REER.
Ouais.
Et là, on me parlait de REER. J'avais 6 ans. Moi, Paul, je veux qu'on change ça. C'est plus le REER qu'on devrait appeler ça. C'est le REEL, le régime d'épargne enregistré de liberté. Et là, je t'explique un peu. Parce que c'est pas juste de la retraite. Tu sais, le REER, là, j'en parlais devant des étudiants hier, puis je leur disais, écoute, le REER, arrêtez de penser que c'est pour votre retraite, vous vous rendrez peut-être pas là. Par contre, c'est une auto-assurance. Si vous arrive un gros mauvais coup dans la vie et que vous avez besoin d'argent, tu sors l'argent de ton REER, tu payes presque pas d'impôts parce que cette année-là, t'as pas de revenus. C'est aussi une assurance maladie grave implicite. Tu sais, tu prends un cancer, tu peux plus travailler, t'as pas d'assurance, mais tu peux ressortir ton REER comme du salaire. C'est aussi un outil pour différer l'impôt, tu sais. Tu reçois un remboursement sur l'impôt que tu payes cette année et tu payes juste plus tard. Donc, si tu réinvestis ton remboursement, ben, tu fais de l'argent à long terme, surtout si ton taux d'impôt baisse à la retraite. Ça sert aussi pour emprunter pour une maison avec le RAP. C'est aussi un outil de planification successorale, tu sais. Si tu meurs avant ton conjoint ou ta conjointe ou l'inverse, tu peux rouler le REER au conjoint sans impact fiscal immédiat. Et c'est un mécanisme cool pour une année sans solde. Et là, j'ai une amie qui a fait un moment donné. Elle a vécu sur ses épargnes, elle est partie un an faire du basic. Sais-tu qu'est-ce qu'elle a fait?
Non.
Elle a tiré son REER. Quand elle a tiré 15 000 de son REER, elle n'a pas payé d'impôt sur le 15 000 parce qu'elle n'avait pas de revenus cette année-là. Elle a garoché ça dans son CELI. Donc, pendant qu'elle faisait 100 000 par année, elle a une déduction de 45 % et elle l'a transféré dans son CELI sans impact fiscal. Et après ça, le CELI est net d'impôt à vie.
Est-ce que c'est toi qui l'as conseillé ou a trouvé
non,
ça
du pas seul? Du tout. Pas du tout. Pas du tout. C'est elle qui m'a parlé de ça dans une entrevue, j'en revenais pas. On va aller plus loin. C'est un outil aussi pour les travailleurs autonomes. Tu sais, une année que tu as un mauvais coup, tu n'as pas de contrat, tu peux prendre un peu de REER, tu sais. Donc, le REER, c'est comme un magot anti-stress. C'est une pile de cash qui dit « Hey, si ça va pas bien, tu as toujours ça. » Fait que tu stresses beaucoup moins, ça réduit ta tension artérielle, tu vas mieux en santé, tu peux travailler plus, tu peux être plus productif puis faire plus d'argent. Donc, au lieu de vendre la retraite, on pourrait vendre, Paul, la liberté. Ça serait bien mieux.
Et juste une question de curiosité comme ça, est-ce que toi, tu mets de l'argent d'abord dans un REEL, comme tu dis, ou dans un CELI?
Le réel, parce que mon taux d'impôt est très élevé.
OK.
Et le CELI, je l'ai vidé, moi. Oui, Paul. Parce que quand j'ai acheté ma maison, je l'ai vidé comme cash down de maison. Et après ça, je m'en suis resservi pour payer de l'impôt, pour différer mon impôt. Donc, c'est vraiment un choix personnel. Le CELI, tu le remplis, tu le vides, tu le remplis. C'est personnel. Moi, j'ai décidé de le vider une partie. Mais Paul, l'objectif, c'est de remplir les deux. Après ça, quand t'as une société incorporée, tu te dis, je vais-tu l'argent de ma société pour mettre du CELI ou je le laisse dans la société, je le fais fructifier à l'abri de l'impôt personnel quelques années. Il y a plein de stratégies. Mais Paul, ce matin, tu sais c'est quoi l'événement?
Lequel?
Le vrai événement ce matin, c'est à Québec que ça se passe. Là. Tu sais ce qui se passe à Québec?
Oui, IKEA.
À IKEA, Paul, on fait la file. Alors Paul, j'ai fait deux calculs, OK?
Ouais.
Les gens font la file parce qu'ils peuvent potentiellement gagner des cartes cadeaux jusqu'à 1000 $.
Et il pleut, là. Juste rappeler que les gens sont sous des tentes avec des trucs sur la tête, là.
Ouais, mais si t'as passé la nuit au IKEA, on s'entend-tu que t'as pris congé aujourd'hui?
Ben, en tout cas,
donc, c'est un coup de renonciation assuré de ton salaire.
Ou t'avais pas grand-chose à faire aujourd'hui.
C'est ça. Deuxièmement, il se peut que tu gagnes 100 $, 50 $ ou rien. Et troisièmement, juste dire que si vous étiez vraiment pressé d'avoir des meubles, celui de Boucherville est ouvert depuis longtemps. Vous partez hier de Québec.
Mais c'est comme
magasiné à Boucherville.
Alain, il me disait qu'à Québec, ils ont ouvert un restaurant Benny.
OK.
Puis les gens faisaient la queue. Tu sais, ça demeure du poulet, là.
Ça demeure du poulet sur des frites,
là. Tu sais, je veux dire, c'est comme... Allez, gars.
Oui. Paul, notre civilisation, un jour, sera étudiée. C'est vraiment, là. Tu sais, il y a eu les croisades. Il y a eu le conquérir le monde. Et il y aura eu faire le line-up devant des magasins.
Non, mais attends qu'il y ait des fouilles archéologiques. Hein. Ils vont trouver nos, tu sais...
Nos sacs de plastique.
Le point à calière dans 200 ans, là, ça va être quelque chose. Merci.
Salut.
Salut, 7h24.